VOA Afrique, les infos. À Washington, Bagassi Koura.
Eric Manilakiza avec vous pour développer les derniers points de votre actualité. Les 14h à Kampala, 12h à Niamey et 11h à Dakar. Au Niger, au moins 9 personnes ont été tuées dans une série d'attentats suicides hier soir à Diffa. Dans le sud-est, proche du Nigeria, de jeunes femmes et un homme kamikaze ont fait exploser leur ceinture d'explosifs en différents endroits de la ville. L'une des cibles était une école coranique basée dans un quartier populaire de la ville. Les lieux des attentats sont bouclés par les forces de sécurité qui ratissent la ville pour la sécuriser. Le président nigérien Mahamadou Issoufou a entamé hier une tournée européenne à Paris. Et à Bruxelles aujourd'hui, ces attaques interviennent après plusieurs mois d'accalmie dans la région de Diffa, théâtre depuis février 2015 de nombreuses attaques de Boko Haram. L'utilisation de gangs politiques au Nigeria est à nouveau sous le feu des projecteurs. Les auteurs présumés de braquages meurtriers ont accusé le président du Sénat de les avoir recrutés au total. 22 suspects ont été arrêtés pour leur participation présumée au braquage de 6 banques dans la ville de Fa. Ces attaques ont fait 33 morts le 5 avril. Dimanche, la police a invité l'ancien gouverneur de l'État de Kwara et l'actuel président du Sénat, Bukola Saraki, à se rendre dans ses locaux pour répondre aux accusations portées contre lui par plusieurs de ses suspects. Monsieur Saraki a qualifié ces allégations de sans fondement et a affirmé avoir été piégé. L'utilisation de jeunes hommes comme hommes de main politique n'est pas nouvelle au Nigeria et le phénomène pourrait s'amplifier à l'approche des élections prévues en février. Toujours au Nigeria, cette fois-ci dans le centre du pays, 182 détenus se sont évadés d'une prison. Des hommes non identifiés ont ouvert le feu sur l'établissement pénitentiaire. Le point avec Morgane Guiriek.
D'après Abdourahman Dambaza, ministre nigérian de l'Intérieur, sur les 210 prisonniers qui se sont échappés, 28 ont été repris et 182 sont toujours en fuite. L'attaque s'est produite tard dimanche à la prison de Mina, capitale de l'État du Niger. Les gardiens ont été maîtrisés par les assaillants et les prisonniers ont pu prendre le large. Des évasions arrivent souvent dans les prisons nigérianes surpeuplées. Des bandes criminelles attaquent les établissements pénitentiaires afin de sortir leurs complices. En novembre 2014, un groupe d'hommes munis d'explosifs avait attaqué la prison de Cotton Carfé dans l'état de Kogi pour libérer 132 détenus. En 2012, la même prison a été attaquée par des hommes armés qui avaient libéré une centaine de prisonniers. Le groupe Boko Haram avait revendiqué cette attaque.
Morgane Guiriek. L'Union européenne a appelé hier soir au respect de la liberté d'expression au Mali. C'est à la suite de la dispersion d'une manifestation organisée par l'opposition ce week-end qui a fait plusieurs blessés. Un porte-parole de l'Union européenne a souligné que tous les acteurs, y compris les forces de l'ordre, sont appelés à faire preuve de retenue. Le scrutin présidentiel du 29 juillet 2018 doit se tenir dans des conditions de paix crédibles, transparentes et inclusives pour renforcer la stabilité du Mali, a-t-il souligné. Au Sénégal, ouverture aujourd'hui à Dakar du procès en appel du maire de Dakar, Ali Fassal. Il a été condamné en première instance à 5 ans de prison ferme et à payer une amende de 5 millions de francs CFA, soit plus de 10 000 dollars. De Dakar, notre envoyé spécial, Abdourahman Dia. Nous nous excusons de ce petit incident technique. Nous n'aurons pas la voix de Abdourahman Dia. Nous allons essayer d'y revenir dès que le problème technique est résolu. Poursuivons notre journal par le Burkina Faso où le collectif citoyen pour l'agroécologie a organisé samedi une marché-meeting à Ouagadougou. Il s'oppose à la volonté du gouvernement d'introduire des moustiques génétiquement modifiés dans le pays pour lutter contre le paludisme. En Côte d'Ivoire, le président n'exclut pas un troisième mandat. Le deuxième s'achève en 2020. Cependant, Alassane Ouattara estime que les mandats effectués avant le changement de constitution de 2016 ne comptent pas. L'opposition ivoirienne n'a pas tardé à réagir en affirmant que cette idée du chef de l'État est anticonstitutionnelle, inacceptable et irréalisable. En RDC, les autorités sanitaires ont annoncé la fin de la campagne de vaccination contre le virus Ebola. L'épidémie qui s'est déclarée le 8 mai dernier a fait 25 morts. Le point avec Marie Benson. Toujours un problème technique, nous ne pourrons pas suivre ce reportage de Marie Benson. En République centrafricaine, un casque bleu tanzanien a été tué et 7 autres blessés. Leur patrouille est tombée dans une embuscade tendue dimanche par des hommes armés dans le village de Dilapoko, dans le sud-ouest de la préfecture de Mambere-Kadia. Selon le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, les assaillants appartiendraient à la milice Siriri. En Éthiopie, le Parlement a levé l'état d'urgence en raison de la stabilité relative et du calme dans le pays, notamment depuis la prise de fonction du nouveau Premier ministre Abiy Ahmed en avril. AFRICOM, le commandement américain en Afrique, a annoncé hier dans un tweet avoir tué 27 militants Shebab dans un raid près de Bosaso dans l'état semi-autonome de Puntland en Somalie. Ce raid a été mené en coordination avec le gouvernement de Mogadiscio, selon AFRICOM, qui dit qu'aucun civil n'a été tué. Les États-Unis soulignent que les troupes américaines continueront de faire usage de toutes les mesures autorisées et appropriées pour protéger les citoyens américains et désactiver les menaces terroristes. Un autre raid aérien américain avait coûté la vie jeudi dernier à 12 militants Shebab au sud de Mogadiscio. Au Maroc, 14 personnes doivent comparaître aujourd'hui devant la justice pour avoir passé à tabac un homme et une femme qu'ils accusaient de ne pas respecter le ramadan. Une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux a suscité l'indignation dans le royaume. En Libye, le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est, a annoncé hier que la victoire de ses forces était proche à Derna, ville contrôlée depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011 par des milices islamistes et djihadistes. La ville connaît une situation humanitaire critique. Ses forces mènent depuis le mois dernier une offensive militaire pour libérer Derna. La marine tunisienne a repris ses recherches hier au large de la région orientale de Sfax pour retrouver d'éventuels survivants ou nouveaux corps. C'est au lendemain de la mort de dizaines de migrants dans le naufrage de leur embarcation. Selon un bilan officiel tunisien provisoire, 48 cadavres ont été repêchés dimanche et 68 migrants secourus, dont 60 Tunisiens, 2 Marocains et 1 Libyen. Plus de 180 passagers se trouvaient à bord de ce bateau d'une capacité maximale de 75 à 90 personnes, a dit un survivant. Ici aux États-Unis, l'ex-chef de campagne de Donald Trump, Paul Manafort, a été accusé hier soir de subornation de témoins. Selon le procureur spécial Robert Mueller, qui mène l'enquête sur l'ingérence russe présumée, M. Manafort a contacté des témoins par téléphone ou par message crypté pour tenter de les convaincre de faire de faux témoignages. Une telle activité viole les termes de sa mise en liberté sous caution et pourrait lui valoir l'emprisonnement en attendant le début du procès, précise le procureur dans sa motion au juge. Et 8 États américains vont tenir des primaires aujourd'hui, mais c'est vers la Californie, l'État le plus peuplé de la Fédération et qui pèse dans la tentative de regagner le Congrès pour les démocrates, que les yeux se tournent. Enfin, les États-Unis toujours ont annoncé qu'ils boycottaient aujourd'hui la réunion plénière hebdomadaire de la conférence du désarmement présidée depuis une semaine par la Syrie, jugeant que Damas utilisait cette fonction pour tenter de normaliser le régime. Des tractations impliquant l'ONU au Yémen en guerre se sont intensifiées pour éviter une bataille entre des rebelles qui contrôlent le port de Hodeïda dans l'ouest. C'est l'axe crucial pour l'aide humanitaire et des forces pro-gouvernementales appuyées par Riyad et Abu Dhabi qui s'en rapprochent. Des sources politiques yéménites ont fait état d'une proposition de transfert du port de Hodeïda sous la supervision directe des Nations Unies. Et c'est la fin de ce bulletin d'information. Mais avant de vous quitter, sachez que la vie vous apporte une seconde chance qui s'appelle demain. Il faut en profiter. Au revoir.